Et retrouvez avec moi Matthieu chapitre 2. Le thème d'aujourd'hui, c'est que Jésus est roi. Et le thème de ces versets, les versets 1 à 2 de Matthieu chapitre 2, 1 à 12, pardon, concerne l'adoration du roi. C'est le titre, l'adoration du roi. Nous avons dans ces versets, dans tout ce chapitre que nous avons lu, en fait, ce grand contraste entre une adoration d'une part ou d'un côté et une opposition de l'autre. Et ce qui nous frappe, qui devrait en tout cas nous frapper, c'est que dès sa naissance, Jésus a suscité ces réactions très diverses et très opposées entre l'adoration de certains et le rejet, la persécution de la part des autres. Alors écoutez pendant que nous relisons ces 12 premiers versets de Matthieu chapitre 2. Jésus étant né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent: « Où est le roi des Juifs qui vient de naître, car nous avons vu son étoile en Orient, et nous sommes venus pour l'adorer. » Le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé, et tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple, et il s'informa auprès d'eux du lieu où le Christ devait naître. Ils lui dirent, verset 5, « À Bethléem, en Judée, car voici ce qui était écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas le moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui pètera Israël, mon peuple. » Fin de citation. Verset 7. Alors Hérode fit appeler en secret les mages, et s'enquit soigneusement auprès d'eux depuis combien de temps l'étoile brillait. Puis il les envoya à Bethléem en disant, « Allez, prenez des informations exactes sur le petit enfant quand vous l'aurez trouvé. Faites-le-moi savoir, afin que j'aille aussi moi-même l'adorer. » Après avoir entendu le roi, ils partirent. Verset 9. Et voici l'étoile qu'ils avaient vue en Orient aller devant eux jusqu'au moment où, arrivé au-dessus du lieu où il était, où était le petit enfant, elle s'arrêta. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Puis, divinement avertis en songe de ne pas retourner vers Hérode, ils rejoignirent leur pays par un autre chemin. Comme je l'ai déjà dit, c'est une histoire de contraste surprenant. Déjà à la fin du chapitre 1, nous avons cet immense contraste de Dieu avec nous, du roi né d'une vierge que nous avons considéré la semaine passée. Dieu vient à nous à travers la grossesse d'une adolescente. C'est chose surprenante. Et n'est-ce pas merveilleux que le plus grand des signes miraculeux fait usage d'une jeune fille? Et ça, c'est la façon dont Dieu agit toujours. Ça, c'est la marque de fabrique de Dieu lui-même. 1 Corinthiens 1, 27 nous dit que Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et Dieu a choisi les choses viles du monde celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont, afin que personne, voici la raison, ne se glorifie devant Dieu. Alors, quand nous considérons ces versets, nous voyons que Bethléem, un petit village, joue un rôle central. Que la Bible aussi, l'Ancien Testament, joue un rôle central dans cette histoire. Et que les païens, les non-juifs, jouent aussi un rôle central. Alors, nous allons regarder ces trois choses. Et donc, la première chose à considérer, c'est le petit village plutôt que la grande ville. Le petit village plutôt que la grande ville. Relisons ce premier verset. Jésus étant né où? À Bethléem, en Judée, au temps du roi Hérode. Et les mages, quand ils arrivent, ils viennent où? À Jérusalem, la capitale. Ils viennent tout naturellement à la capitale pour parler au roi. Ils ne réalisaient pas qu'il fallait aller au village pour parler avec la jeune fille. C'est normal de penser qu'il faut aller à la capitale parler avec le roi, mais non, il va falloir trouver la jeune fille au village. Et le rôle de Bethléem avait été prédit par le prophète Michée. C'est cité au verset 6. « Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui pètera Israël, mon peuple. » Alors, si vous connaissez un peu l'histoire de la Bible, vous savez que Bethléem a une longue et assez riche histoire. La première fois qu'on voit Bethléem dans la Bible, c'est en Genèse chapitre 35, qui dit, verset 19, « Rachel mourut et elle fut enterrée sur le chemin d'Ephrata, qui est Bethléem. » Et vous vous souvenez aussi peut-être que lorsque Naomi revient en Israël avec sa belle-fille Ruth, la Moabite, ils reviennent et s'installent à Bethléem. Et c'est pour cela que son petit-fils, David, sera lui-même né à Bethléem. Et c'était là où il faisait paître les moutons de son père. C'est à Bethléem que Samuel vient oindre David comme roi. Mais lorsque Michée donne la prophétie que nous venons de lire en Matthieu chapitre 2, son accomplissement semble presque impossible. Et vous n'allez plus entendre parler même de Bethléem dans l'Ancien Testament. Ce qui se passe, c'est que la Samarie est conquise par les Assyriens, puis Juda est pris en captivité par les Babyloniens. Il y a trois grandes puissances mondiales qui connaîtront leur essor et leur déclin, et une quatrième même, Rome, va apparaître. Et pendant toutes ces années, Bethléem est presque oublié, totalement négligé par les pouvoirs du monde auquel elle est soumise, mais elle n'est pas considérée comme une ville d'importance. Rome, maintenant arrivée au moment de Christ, était la puissance mondiale, et à l'autre bout du monde presque. Dans la ville de Rome, on va dire la plus grande ville, la plus importante de l'époque, un empereur, César Auguste, motivé par l'égoïsme, et l'avidité a ordonné un recensement de toute la terre. Alors, je vous assure qu'il ne pensait pas à Bethléem. Mais toute la terre romaine, comprend, bien évidemment, la petite ville ou le petit village de Bethléem. Et Luc 2, je vous lis ces versets que vous connaissez. « En ce temps-là parut un édit de César Auguste ordonnant un recensement de toute la terre. Ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinius était gouverneur de Syrie. Tous allaient se faire inscrire, chacun dans sa ville. Joseph aussi monta de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée, dans la ville de David appelée Bethléem, parce qu'il était de la maison et de la famille de David. » Et Luc 2, 4 est chronologiquement la prochaine référence à Bethléem après Michée 5, 1. Toutes ces années, c'est comme rien se passe. Et là, l'empereur, à l'autre bout du monde, ordonne un recensement. Et ce jeune homme qui n'habite même pas la ville, à cause de ce fait, doit retourner dans ce petit village de Bethléem. Et c'est là, comme dit Matthieu 2, verset 1, qu'est né Jésus le Christ. Et donc vous avez la grossesse à terme d'une vierge, vous avez le décret d'un païen, l'empereur de Rome, vous avez la gouvernance d'un gouverneur en Syrie qui décide quand mettre tout cela en place, et vous avez une prophétie qui date de plus de 700 ans. Et Luc 2, 6 dit, pendant qu'ils étaient là, à Bethléem, le temps où Marie devait accoucher arriva, et elle enfanta son fils premier-né. Ça, c'est la puissance de Dieu dans l'histoire. La prophétie est accomplie. Alors, relisons ce premier verset de Matthieu 2. Jésus étant né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode, voici les mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem. Alors, Dieu travaille à sa manière et à l'endroit de son choix. Et il faut savoir où chercher l'œuvre de Dieu. Beaucoup de gens se trompent parce qu'ils vont au mauvais endroit chercher l'œuvre de Dieu. Ce n'est pas dans les plus grandes entreprises, ce n'est pas par les plus puissants gouvernements du monde, ce n'est pas à travers les plus riches de ce monde que Dieu travaille. Dieu est un Dieu qui choisit les choses faibles, les choses viles et même les petits villages pour faire son œuvre. Alors c'est le plus petit village plutôt que la grande ville. Et la deuxième chose que nous voyons, c'est le deuxième contraste, c'est des guides divins plutôt que l'opinion populaire. Nous avons un contraste ici entre des guides divins et l'opinion populaire. Et nous voyons que ni notre intuition, ni notre opinion, ni l'opinion populaire va nous guider au Christ. Si vous cherchez le Christ, ce n'est pas par vous-même que vous allez pouvoir le trouver. Jésus étant né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode, voici les mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem, verset 2, et dirent, où est le roi des Juifs qui vient de naître, car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé, et tout Jérusalem avec lui, il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple, et il s'informa auprès d'eux du lieu où le Christ devait naître. Ils lui dirent, à Bethléem en Juda. Et il cite après la prophétie. Il ne faut pas ici minimiser le rôle des Écritures. Souvent, quand on lit ce texte, on pense à l'étoile, et on va y parler dans un moment. Mais, et on dit que les mages ont suivi l'étoile. Alors, ceci est vrai. Mais ils ont été aussi guidés dans leur dernière étape, la plus importante, par les Écritures. Et ces mages ont suivi l'étoile, mais ils ont aussi suivi les Écritures. Et vous verrez qu'après que cette prophétie est donnée, ils sont en fait les seuls à chercher à suivre ces Écritures. C'est la profonde et triste ironie. Et dans l'usage que font les uns et les autres des Écritures. Parce que la grande question ici est où? C'est une question de localité, d'emplacement. Et c'est pour cela que les mages, ils viennent tout naturellement à Jérusalem et ils disent, regardez le verset 2, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Ah, ils se posent pas la question, est-ce qu'il vient de naître? Ça, ils sont sûrs. Mais la question pour eux, c'est où? Où peut-on le trouver? Et pour répondre à cette question, c'est intéressant que c'est Hérode qui demande en premier l'avis des Écritures. Il a dû se penser à quelque chose, se rappeler de quelque chose, qu'il y avait une prophétie qui parlait de l'endroit. Et donc, regardez le verset 4. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple et il s'informa auprès d'eux du lieu où le Christ devait naître. Encore, ça c'est la question. Où sera né le Messie, le Christ, le Messie, c'est le même mot. Mais quel usage veut-il faire de la Bible? Pourquoi est-ce qu'il veut savoir où? Alors nous avons lu verset 9, je crois, où il dit, dites-moi où, comme ça je pourrai venir aussi moi-même l'adorer. Mais si vous lisez la suite, vous savez que c'est un mensonge, n'est-ce pas? Qu'il a des pensées déjà, il a une crainte pour sa propre vie, pour son propre royaume. Et si il est très diligent dans sa quête pour savoir où est cet enfant, c'est pour pouvoir le tuer. Et que dire des principaux sacrificateurs et des scribes du peuple? C'est intéressant qu'ils arrivent à la réponse, il nous semble, en tout cas, immédiatement. Ils sont tous là, on leur pose une question, et ils disent, ça c'est facile. Question facile. Ils lui dirent, verset 5, à Bethléem en Judée. Car voici ce qui est écrit par le prophète. Là, il y avait des débats entre les différents scribes et pharisiens. Il y avait plein de débats sur la résurrection, etc. Voici, question, il n'y avait pas de débat. Tout le monde était d'accord. Tout le monde savait déjà la réponse. Mais quel usage font-ils des Écritures? Aucun. Aucun. La réponse est si facile, mais il ne se déplace même pas pour vérifier la chose. Et ce texte nous révèle donc les premières réactions à cette naissance royale. Ce texte nous met tout de suite dans un contexte royal. La façon qu'il est adoré et même la façon qu'il est haï démontre qu'il a une importance royal. On ne hait pas un bébé parce qu'il est faible, parce qu'il est petit. Mais pour ce qu'il représente et ce qu'il pourrait devenir, Hérode n'a pas peur d'un bébé, il a peur d'un roi. Et donc tout de suite, on est dans ce contexte royal que Hérode lui-même admet. Et c'est pour ça qu'il veut l'étouffer dans l'œuf, comme on dit, et il veut le tuer avant qu'il puisse grandir. Donc c'est une affaire royale, c'est d'une importance internationale. Il y a une visite d'État par une délégation internationale qui arrive à la capitale et qui crée au sein du gouvernement une crise socio-religieuse et politique. C'est une crise. Tout Jérusalem est troublé. Et où est la Bible dans tout cela? Eh bien, elle est utilisée par des non-croyants à leur propre fin. Hérode veut s'en servir pour lui-même. Et les scribes et les pharisiens et ces leaders du peuple semblent désintéressés, certainement non convaincus que ce roi puisse être à ce moment-là, vivant à Bethléem. Alors je vous pose la question, que faites-vous de la Bible? Il y a peut-être des jeunes ici qui savent citer des versets, qui savent tout de suite nous dire ce qu'il faut faire pour être sauvé, par exemple. Qui savent qui est le Christ. Mais la question vraiment se pose, quel usage faisons-nous de la Bible? Peut-être vous n'êtes pas Hérode, vous voulez persécuter, mais peut-être vous êtes comme ces scribes et ces leaders qui sont pleins d'une connaissance, mais qui n'ont même pas le cœur de se déplacer. C'est intéressant que ces mages viennent de loin, n'est-ce pas? Et Jérusalem est à peu près 6 kilomètres de Bethléem. Les mages viennent de loin. Peut-être ils ont mis des mois à voyager. Il y a d'autres qui ne veulent même pas se lever le dimanche matin pour aller au culte. Et les mages sont l'exception ici. Ils sont seuls à vouloir se déplacer à Bethléem. Et après avoir entendu le roi, verset 9, ils partirent et voici l'étoile qu'ils avaient vue en Orient aller devant eux jusqu'au moment où, arrivée au-dessus du lieu où était le petit enfant, elle s'arrêta. Et quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une très grande joie. Alors j'ai dit que le contraste ici, c'est entre des guides divins plutôt que l'opinion populaire. L'opinion populaire, si c'est Hérode, ils veulent tuer. Si c'est les Juifs, ça vaut même pas le coup d'un déplacement. Mais voici à l'étoile. C'est un guide surprenant quand même. Et en regardant, en considérant cette étoile, nous ne sommes pas obligés de concevoir de cette étoile comme étant forcément un astre brillant de sa propre lumière observable sous la forme d'un point scintillant sans mouvement apparent. Ça, c'est la définition d'une étoile dans le dictionnaire. La définition astronomique. Je ne pense pas qu'on soit obligé de dire que c'est une étoile, les mêmes sortes d'étoiles que nous voyons quand nous sortons la nuit dans la campagne. Parce que vous voyez que c'est là, et puis ce n'est plus là. Ils arrivent à Jérusalem, ils n'ont plus l'étoile pour leur guider, il nous semble. Ça les guide en Orient, puis s'arrête au-dessus d'une maison. La Bible dit qu'elle s'arrête. Donc ce que nous sommes obligés quand même d'accepter, c'est que c'était un guide céleste et divin. C'était un guide céleste et divin. Et si vous connaissez votre histoire, vous savez que ce n'est pas la première fois que Dieu guide ses enfants par ses guides célestes et visibles dans le ciel. Les enfants d'Israël, pendant 40 ans, ont été guidés par une flamme la nuit et une nuée le jour. Et c'était miraculeux. C'était la présence de Dieu qui les guidait. Mais le contraste ici, c'est entre l'opinion publique et ses guides divins. C'est Dieu qui les guide vers la bonne destination. C'est peut-être donc la gloire de Dieu qui a guidé le peuple dans le désert. Mais en tout cas, c'est un phénomène céleste et miraculeux qui leur servent de guide. Et Dieu agit dans des endroits inattendus. Mais ce qu'il faut souligner ici, c'est que si vous voulez le trouver, il vous faut un guide divin. L'intuition ne vous amènera jamais à Dieu. Et j'ai parlé tout récemment encore, je sais qu'il y en a beaucoup de personnes qui sont très confiants qu'ils trouveront Dieu d'eux-mêmes. Ils pourront d'eux-mêmes, par leurs pensées, par leurs études, grâce à leurs expériences, ils pourront d'eux-mêmes avoir une bonne conception de qui est Dieu, comment le plaire, comment vivre cette vie, ce qui sera la vie après. Ils ont une grande confiance en eux-mêmes et leurs propres idées de Dieu. Et ce que nous voyons ici, c'est que si vous êtes même chef religieux, et vous faites confiance en vous disant non, c'est impossible que ça soit pendant cette époque, qu'il soit vraiment né pendant... Non, ça pourrait pas... Si vous vous faites confiance, vous n'allez jamais trouver le roi. Il faut vous soumettre à la révélation de Dieu. Et la Bible dit qu'il s'est révélé. Et qu'il s'est révélé dans sa parole. La Bible est la révélation de Dieu. Il nous a fait des êtres qui peuvent parler parce qu'il voulait se révéler à travers la parole. Et nous sommes capables, dans sa parole, de le connaître. Alors j'arrive au troisième contraste ici. Et ça, c'est qu'il y a des adorateurs païens plutôt que les dirigeants juifs. Des adorateurs païens plutôt que des dirigeants juifs. Le lieu est inattendu. Le guide est ignoré ou rejeté. Mais les adorateurs, c'est quand même une surprise, non? Les leaders politiques et religieux de Jérusalem ne se déplacent pas, mais c'est les païens qui viennent de loin, qui cherchent à l'adorer. Quand ils aperçurent, verset 10, l'étoile, ils furent saisis d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Et vous, au début du chapitre, ils ont dit, c'est pour ça que nous cherchons. Nous voulons l'adorer. Normalement, quand on va devant un roi, c'est pour demander quelque chose, n'est-ce pas? Et il y a quelques semaines, j'ai pu rencontrer le maire de mon petit village, juste pour faire connaissance. La première chose qu'il m'a dit, c'est « Que puis-je faire pour vous ?» Et j'ai dit « Bon, franchement, j'ai rien à vous demander. » Il a dit « Ah, ça c'est rare !» Et là, ils viennent devant le roi et ils viennent pour l'adorer. Ils viennent même avec des dons. Nous voyons qu'ils ne sont pas là pour chercher leur propre intérêt, pour se faire plus riche ou plus connu. Ils cherchent un bébé pour lui donner des cadeaux. Et ils se déplacent des milliers de kilomètres pour le faire. Et ils lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Alors on pourrait réfléchir à ces cadeaux. On ne sait pas ce que pensaient les mages, il ne nous est pas dit, mais nous savons quand même que ces cadeaux ont des sens, l'or et partout le métal des rois. Je crois qu'ils le confessent ici comme roi. Hein, ils cherchent le roi, ils veulent adorer le roi. Et l'encens, c'est le parfum d'adoration qu'on utilisait dans le tabernacle et dans le temple, dans l'adoration de Dieu. Image ici de Christ comme le souverain sacrificateur. Et puis la myrrhe, c'est ce qu'on utilisait pour embaumer un mort. On pourrait penser que dans certains contextes, ce serait presque méchant d'offrir à un bébé de quoi embaumer un mort. J'ai un ami français qui m'a appris qu'il ne faut jamais donner à sa femme des chrysanthèmes. C'est comme ça qu'on dit ? Parce que c'est ça qu'on met sur les tombeaux lors du Toussaint. Il a dit, surtout pas, donne pas ça à ta femme. Et c'est un peu comme ça. Et plus tard, quand Jésus est oint d'un autre parfum, du nard, il donne lui-même la signification. Il dit ceci de Marie qui l'a fait. Il a dit, elle a fait ce qu'elle a pu, elle a d'avance embaumé mon corps pour la sépulture. Marc 14, verset 8. Alors, il ne nous est pas dit explicitement, mais nous pouvons appliquer la même interprétation que Jésus lui-même a donnée à cette pratique, à cet événement ici. Donc, nous avons un bébé qu'on embaume d'avance pour la mort. Il est né pour mourir. C'était sa mission depuis sa naissance. Mais je reviens à ce que je pense est le point central ici. C'est des adorateurs venus de loin. Au verset 2, ils ont dit, nous sommes venus pour l'adorer. Au verset 11, il nous est dit qu'ils se prosternèrent et l'adorèrent. Et nous voyons ici quelque chose de la gloire de Dieu le Fils, l'œuvre de Dieu l'Esprit Saint, et l'amour de Dieu le Père pour son Fils, qui fait que même en tant que bébé, Dieu à attirer des adorateurs de loin pour venir l'adorer. C'est un bébé qui sera rejeté. C'est un bébé qui sera maudit par le monde. C'est un bébé qui sera un jour crucifié sur une croix à cause de nos péchés. Mais son Père qui l'aime et par l'Esprit attire vers lui même après sa naissance et en tant que bébé et des adorateurs des endroits surprenants. Des adorateurs venus de loin. Et la Bible nous force aussi à nous confronter à cette même réalité. Vous êtes ici ce matin, ne pensez pas que ces choses ont été écrites comme dans un manuel scolaire pour nous aider avec notre culture générale et pour nous apprendre des choses de l'histoire. L'auteur est conscient que celui qui est en train de lire ou celle qui est en train de lire cette histoire sera confrontée elle-même à ce bébé qui deviendra un jour grand. Et que le lecteur doit s'identifier à un de ces personnages, à Hérode, ou à ceux qui l'ont ignoré, ou à ces mages qui sont venus l'adorer et lui offrir donc leur trésor. Donc si vous écoutez cette histoire et ce message et vous partez sans rien penser, vous êtes comme ces scribes. Ils ont probablement complètement oublié cette histoire. D'ailleurs, Hérode peut dire en secret, venez me dire ce que vous trouvez. Et il le dit en secret et parce qu'il sait que si on ne dit plus rien, les gens vont l'oublier. Et donc, quand Jésus apparaît sur la scène 30 ans plus tard, les gens, cette histoire ne revient plus dans leur pensée. Ils l'ont vécu, mais ça n'avait aucune importance pour eux. Vous savez, parfois on peut vivre des choses très importantes sans qu'on y attache l'importance qu'elle doit. Vous êtes ici ce matin, vous entendez prêcher la parole de Dieu, ça sera peut-être la dernière fois. Vous serez peut-être avant la fin de cette semaine mort. Ou morte. Dieu ne vous a pas promis un lendemain. Et si vous attachez très très peu d'importance à la parole de Dieu, la prédication de la parole de Dieu, vous vous êtes identifié déjà à un de ces groupes. Ces gens qui connaissaient la parole de Dieu, mais qui n'en faisaient aucun cas pour eux-mêmes. Mais peut-être vous vous dites, mais moi, je connais pas la Bible. Je ne pense pas que je mérite être même un chrétien. Vous ne connaissez pas mon passé ou mes péchés. Eh bien, en ceci, vous pouvez vous identifier avec les mages. Ce ne sont pas des juifs. Nous ne savons pas leur passé. La Bible n'y est même pas intéressée. Ce qui est important, c'est qu'ils sont venus adorer l'enfant. Êtes-vous un adorateur? Je termine en vous lisant des paroles d'un chant, c'est le 493, je crois, qui prend une autre époque dans la vie de Jésus. Au tribunal, Jésus se tient méprisé, seul et sans soutien. Et Pilate, au peuple, dit soudain, que dois-je faire à Jésus? C'est un peu l'histoire ici. Qu'est-ce qu'on va faire? Hérode a son idée. Les scribes ont leur idée. Les mages aussi ont leur idée. Mais j'aime bien ce cantique parce qu'il retourne la chose sur la personne. Et il dit, que feras-tu de Jésus? Il se tient devant toi. Et un jour, tu diras plein d'effroi, que fera-t-il de moi? Après, le cantique dit, comme Judas, trahirez-vous celui qui vint mourir pour nous? Ou le suivrez-vous jusqu'au bout? Ou comme Pilate, indifférent, condamnerez-vous l'innocent? C'est vous qui jugez maintenant. Et nous, on peut ajouter, comme les scribes, serez-vous indifférent? Comme Hérode, voulez-vous le tuer pour que vous puissiez être roi à sa place? Ou comme les mages, viendras-tu humblement l'adorer comme roi des rois? Dieu cherche, Jésus l'a dit lui-même, des adorateurs. Sommes-nous aujourd'hui ces adorateurs? Prions. Seigneur, nous te demandons de prendre ta parole, cette très belle et très connue et très simple histoire, mais que par ton esprit travaillant dans nos cœurs, tu nous forces chacun et chacune à nous confronter à cette réalité de la divinité et la royauté de Jésus-Christ. Et de faire une enquête sur nos propres cœurs et de nos propres vies pour savoir si nous l'adorerons, et si nous l'adorons actuellement comme notre roi. Nous voulons nous soumettre et nous voulons un jour régner éternellement avec toi. Travaille dans chaque cœur pour donner la foi de croire ces choses et de les accepter comme vraies. Amen.